Il est vivant, notre Seigneur, il est tout-puissant et nous voulons nous réjouir devant sa face et réaliser tout ce qu'il a fait pour nous et vivre pleinement dans tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni, se réjouit d'être ensemble et de pouvoir célébrer le Seigneur. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et deux textes d'introduction, on en lira d'autres dans notre parcours de ce matin, mais tout d'abord un premier texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, première aux Corinthiens, chapitre 5, et nous lirons, nous ferons notre lecture à partir du verset 6, C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le levain, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Second texte, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, et nous retenons avec ce premier passage, que Christ est notre Pâque. Alléluia. Matthieu 26, verset 17. Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Alléluia. Quoi de plus normal qu'en ce dimanche de Pâques, nous puissions rappeler certaines choses qui sont liées à cette fête et à sa signification. Et je rappelle juste quelques mots que cette fête tire ses racines dans une fête de l'Éternel que l'on trouve dans Lévitique chapitre 23, qui commémorait eh bien, la délivrance du peuple d'Israël de l'Empire d'Égypte, où ils étaient esclaves, la nuit où ils sont partis à la hâte d'ailleurs, eh bien, il y avait cet ange exterminateur qui passait et les premiers-nés des Égyptiens étaient mouraient, mais les enfants d'Israël qui avaient sacrifié un agneau avaient mis le sang de cet agneau sur les linteaux des portes, et ainsi ils étaient épargnés. Cela préfigurait bien sûr aussi prophétiquement une autre Pâque bien plus glorieuse encore, celle que Christ allait inaugurer. Lui, l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour nos péchés, afin que nous soyons délivrés, les uns et les autres, de l'esclavage du péché, que son nom soit glorifié. Cette fête de Pâques était préparée par les Juifs, et elle est toujours préparée, puisque les Juifs fêtent toujours la Pâque aussi, et ils préparaient la Pâque bien à l'avance, ils faisaient disparaître le levain chez eux, ils nettoyaient la maison, Ils préparaient la maison, il y avait tout un décorum qui était là. Et puis aussi, il y avait les aliments à préparer, puisqu'il y avait, c'était un repas. Donc, il y avait pas mal de choses à préparer pour que, au jour de la Pâque, tout soit prêt. Et ainsi, ils pouvaient célébrer la Pâque. Et si cette Pâque était préparée, c'est parce que aussi ils allaient fêter ça en famille et cela avait une signification pour eux par rapport à ce qui s'était passé, comme je le disais, en Égypte. Alors, tout cela n'aurait eu aucun sens si la maison était restée vide et que les invités ne seraient pas venus. Et voilà, tout ce qui avait été préparé, la maison nettoyée, décorée, la table apprêtée avec tous les aliments, mais si personne ne vient à ce repas, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Jésus a pu dire « Mon temps est proche, mon temps est proche ». Jésus, juste après ce moment passé avec ses disciples dans ce repas de Pâques, va être livré pour être crucifié, lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais maintenant lire un autre passage avec vous dans Genèse chapitre 22, au verset 6. On va ensemble lire un texte qui, lui aussi, nous rappelle l'œuvre de Jésus à la croix. Nous savons que Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans Genèse 22, verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Connais ce passage où Abraham est mis à l'épreuve dans sa foi par l'Éternel. Abraham, durant des décennies, a vécu dans son cœur avec cette promesse d'avoir un fils. Cette promesse a tardé avant de s'accomplir. Et puis, Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, il la tient. Et après bien des années d'attente, Abraham a enfin l'enfant de la promesse. Au bout de quelques années, alors qu'il était encore jeune, Isaac est encore jeune, un adolescent, l'Éternel met à l'épreuve Abraham en lui disant « Mais offre-moi ton fils ». Imaginons-nous, à la place d'Abraham, des années à attendre et en plus un fils. Abraham obéit dans la foi, il va même dire à ses serviteurs « Nous reviendrons », il ne sait pas ce qui va se passer, mais Abraham a la foi. Et cette foi, elle est citée dans Hébreux chapitre 11, cette foi d'Abraham, il sait qu'il va se passer quelque chose, il est prêt à obéir à l'Éternel, et il va obéir à l'Éternel. Et il dit « Nous reviendrons ». Et puis il va dire à son fils, lorsque son fils réalise qu'il n'y a pas l'agneau pour l'Holocauste, il va dire « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau ». Quelle foi ! Quelle foi d'Abraham ! Il manque quelque chose. Et Isaac, même s'il est encore jeune, c'est un adolescent, il sait les choses et il est en mesure de réfléchir. il est là, il y a le bois, il y a le feu, il y a tout, il y a le couteau. Abraham aurait pu prendre un agneau de ses troupeaux. Enfin, quand même, il faut se rappeler qu'Abraham avait de grands troupeaux, d'immenses troupeaux même. Et voilà, il aurait pu très bien prendre un agneau. Cela a dû interpeller son fils, quand même, Isaac. Pourquoi mon père n'a-t-il pas pris d'agneau pour l'Holocauste? Il est où, cet agneau? Un holocauste sans un animal à sacrifier n'est plus un holocauste, cela n'a plus de sens. De même que ce n'aurait pas eu de sens pour les Juifs de faire le repas pascal sans agneau. C'est l'élément central. Même s'il y a d'autres éléments à côté, il y a les herbes amères, il y a le vin, il y a tout ça. Bon, il y a certains éléments qui sont là sur la table, mais tout ça n'a aucun sens s'il n'y a pas l'agneau. Où est l'agneau? La question est posée par Isaac. Et la question nous est posée à nous aussi ce matin. Où est l'agneau? Pâques n'aurait aucun sens s'il n'y a pas l'agneau. Nous avons pris ce matin la Sainte Cène, comme nous le faisons tous les dimanches. Mais tout ça n'aurait aucun sens si l'agneau n'est pas au milieu de nous. Où est l'agneau dans l'Église? La question est posée. Nous pourrions avoir tous les emblèmes chrétiens réunis, la Sainte Cène, avoir une croix, tout cela, tout le décorum, mais s'il n'y a pas la réalité spirituelle de l'agneau de Dieu au milieu de nous, tout cela n'aurait aucun sens. Ce qui donne du sens à la Sainte Cène, c'est qu'il y a une réalité en nous, c'est que Christ est dans nos cœurs. Alléluia. Christ est dans nos cœurs. Où est l'agneau? Et l'Église et le christianisme a pour fondement le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand l'Église oublie ce fondement, elle oublie tout. Elle oublie l'essentiel. Elle pourrait multiplier les emblèmes extérieurs. Elle pourrait faire les choses d'une manière très fidèle extérieurement. Même mettre du pain sans levain, parce que nous on met du pain avec levain là. Hein. Mais pain sans levain ou pain avec levain, peu importe si c'est fait sans une réalité spirituelle qui se passe dans nos cœurs, cela n'a aucun sens. Ce n'est pas le fait d'avoir du jus de raisin ou du vin qui a de l'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que l'agneau de Dieu soit au milieu de nous, partagé. Alléluia. Que l'agneau de Dieu, je répète, soit au milieu de nous, partagé, et que notre vie soit fondée, que l'Église soit fondée sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Non seulement où est l'agneau dans l'Église, mais je dirais où est l'agneau dans notre propre vie personnelle. Où est l'agneau dans ma famille? Alors quelqu'un va peut-être dire, et il aura raison de le dire, mais dans ma famille, je suis le seul converti. Mais oui. Mais même si nous le sommes le seul converti, on peut dire déjà pour moi-même, où est l'agneau dans ma vie? Où est l'agneau dans ma vie? Et pour ceux qui ont cette grâce d'avoir une famille chrétienne, il est important que Christ soit vraiment le centre de la famille, que Jésus soit le centre de la famille. Où est l'agneau de Dieu au milieu de nous? Où est l'agneau de Dieu dans nos familles? Où est l'agneau de Dieu quand nous sommes ensemble? Où est l'agneau de Dieu quand il y a un différend, quand il y a une tension, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un conflit? Il est important de se rappeler que l'agneau de Dieu est au milieu de nous. Où est l'agneau? On pourrait avoir les meilleures méthodes, on pourrait avoir les meilleures structures possibles. S'il n'y a pas l'agneau, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel. Parce que la maison alors serait vide. La maison serait vide. Or Dieu n'a pas fait les choses pour qu'elles soient vides. Il les remplit. Lorsqu'il a fait la création, il a vu le ciel et la terre, et elle était informe, et quoi? Elle était vide. Et Dieu a rempli ce vide. Il a rempli ce vide. Il a fait création que nous voyons avec la végétation, avec les animaux, et puis, bien sûr, avec l'être humain. Sinon, la planète Terre serait comme les autres planètes de l'univers. Elle ne serait pas habitée. Mais Dieu est le Dieu de la vie et il met la vie au milieu de nous, que son nom soit glorifié. Avant d'aller plus loin, j'aimerais lire un autre texte avec vous dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve vide. J'insiste là-dessus. Il la trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Oui. Là, il y a une image que Jésus nous donne pour nous montrer ce qui se passe lorsque un esprit impur est sorti de quelqu'un, lorsque l'esprit est sorti d'un homme, on parle bien d'un homme, quand même, voilà. Il va par des lieux arides. Voilà. Alors, voilà, et donc il n'y a plus cet esprit impur dans cette personne, dans cet homme. Alors, quelque chose se passe dans le cœur de cet homme. Voilà. Il y a un nettoyage qui est fait. Il y a un balayage qui est fait, il y a une décoration balayée et ornée, elle est vide. Or, pour redire ce que je disais tout à l'heure par rapport à la fête de Pâques, c'est vrai que les maisons familiales étaient, elles étaient nettoyées, elles étaient décorées, on préparait la maison quelques jours à l'avance, on faisait disparaître le levain de la maison par peur, eh bien que le levain puisse toucher la farine et que la pâte soit levée, il fallait faire donc disparaître le levain. C'était donc voilà toute une préparation qui était faite. Mais cela n'aurait eu aucun sens, comme je le disais, si la maison était restée vide. Nous avons peut-être connu la grâce de Dieu un jour dans notre cœur. Dieu a fait des choses dans notre vie. Il a agi en notre faveur. Il nous a fait comprendre certaines choses sur les réalités spirituelles. Nos yeux se sont ouverts. Et il y a eu comme un nettoyage dans notre cœur qui s'est passé. Nos pensées se sont éclairées. Avec la parole de Dieu, notre vie a pris une allure nouvelle, notre vie a pris un sens, voilà ça, notre vie s'est embellie comme la maison qui est balayée et ornée, elle s'est embellie par l'action de la parole de Dieu dans notre cœur, parce que les choses pour nous, nous paraissent évidentes à la lecture de certaines choses de la parole de Dieu. Donc, nous avons mis des choses dans notre vie en ordre. Sauf que tout cela, c'est bien. Mais si Jésus n'est pas là, la maison est vide. Et je repose la question. Où est l'agneau ? Comment se fait-il que quelqu'un qui soit délivré d'un esprit impur n'ait pas fait entrer Jésus dans sa vie ? Nous avons connu plusieurs cas de délivrance démoniaque dans le cours de notre ministère. Et il est arrivé parfois que des personnes, nous avons prié pour eux, ont été délivrées de ces puissances démoniaques. Ces choses-là existent, même en France. Hein. Ces choses-là existent. Et parfois, ces personnes, une fois délivrées, c'est vrai qu'ils peuvent vivre normalement. Et pour eux, c'est un nouveau départ. Mais quelques-unes de ces personnes n'ont pas pris soin de faire entrer Jésus dans leur cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au bout d'un certain temps ? Ce que Jésus vient de dire. La condition de cet homme est pire que la première, tout cela parce que la maison est restée vide. La maison est restée vide. Et si la maison est restée vide, la place est libre. Personne ne peut contrer, personne ne peut résister à cette offensive qui est là. Jésus s'adresse ici à il aurait fallu lire tout Matthieu chapitre 12, s'adresse ici à certaines personnes. Jésus vient de chasser un petit peu avant, on pourrait lire à partir du verset 22, il vient de chasser un démon d'un aveugle muet, et puis certains disent, mais cet homme chasse les démons par le prince des démons. Jésus leur enseigne certaines choses, et les scribes, les pharisiens sont pas contents de tout cela. Ils veulent que Jésus leur fasse un miracle. On dit, mais une génération méchante et adultère demande un miracle. Mais il leur sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Et c'est quoi ce miracle de Jonas, si ce n'est la croix ? De la même manière que Jonas a été englouti par le poisson, puis recraché par le poisson, Jésus-Christ est mort, enseveli, et il est ressuscité. Alléluia ! Il est ressuscité. Ils l'ont eu devant leurs yeux. Et le pire, c'est que cette génération-là connaissait les prophéties. L'attente messianique était très forte en Israël en ce moment-là. Ils attendaient le Messie. Mais où il est où ce Messie ? Il est où le Messie ? Comme en son temps, Isaac, il est où l'agneau ? Il est où le Messie ? Ils attendaient le Messie. Les prophètes étaient très clairs. Ésaïe, Jérémie, les prophètes étaient très clairs. Moïse a annoncé la venue de Jésus aussi. Il est où ? Et quand il est venu ? L'ont-ils reçu ? L'ont-ils fait entrer dans leur cœur ? L'ont-ils reçu dans leur vie ? La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ, alléluia, il est l'agneau de Dieu. Alors à la question, où est l'agneau ? Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, verset 29, nous donne cette réponse. Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit, alors c'est Jean-Baptiste qui a vu Jésus, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. à la question « Où est l'agneau ?» Jean-Baptiste répond « Voici l'agneau. » C'est Jésus. Oui. Voici l'agneau. Lorsque Jésus est venu à Jean-Baptiste pour prendre son baptême, il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et ce témoignage qui a été rendu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est où l'agneau ? C'est Jésus qui est l'agneau. Amen. Et il est désigné par les prophètes, il est désigné par le Saint-Esprit. Il est désigné par le Saint-Esprit. C'est Jésus le Rédempteur. C'est Jésus qui est venu pour être sacrifié à notre place afin de porter la peine de notre péché. Il n'y a qu'à lire Ésaïe 53 pour s'en convaincre. Je vais prendre une autre image pour vraiment montrer que toute la parole de Dieu nous attire nos regards, porte nos regards sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, attire notre attention sur Jésus-Christ. Que s'est-il passé lorsque les eaux du déluge ont commencé à baisser? Noé a envoyé le corbeau et la colombe. Vous connaissez cette histoire. Au bout d'un moment, le corbeau n'est pas revenu. Le corbeau, ça mange certaines choses. Il a trouvé de quoi se nourrir, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, la colombe n'est pas revenue aussi, pas tout de suite. À quel moment voit-on réapparaître la colombe? Vous savez, la colombe, c'est plus délicat. Ça ne se pose pas n'importe où. Ce n'est pas comme le corbeau, qui est plus charognard. Et vous imaginez, quand les eaux ont commencé à baisser, ça devait être boueux, des troncs d'arbres mélangés avec toutes sortes de débris. Voilà, faut comprendre la chose. Ça ne gêne pas trop, le corbeau. Mais la colombe, elle est plus délicate. Où voit-on réapparaître la colombe? À quel moment voit-on réapparaître la colombe? Au baptême de Jésus. On la voit descendre, l'Esprit de Dieu, comme une colombe. C'est lui l'agneau. C'est lui qui est désigné. Alléluia. C'est lui qui est désigné. C'est lui le Fils de Dieu. Alléluia. Christ est notre Pâque. Et nous voulons vraiment réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans l'agneau de Dieu, tout ça n'aurait aucun sens. Tous nos efforts auraient aucun sens. Sans l'agneau de Dieu au milieu de nous, cela n'aurait aucun sens. C'est lui qui a renversé le mur de séparation. C'est lui qui a enlevé l'inimitié. Il ne peut y avoir d'entente. Il ne peut y avoir d'harmonie sans l'agneau de Dieu au milieu de nous. Nous ne pouvons pas être délivrés de la puissance du péché par des méthodes humaines, par des méthodes psychologiques, tout cela. Non, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui ôte le péché. Alléluia. Et nous voulons vraiment, eh bien, qu'il ait toute la place au milieu de nous. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il ouvre nos yeux sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Notre vie a totalement changé. À certaines périodes, dans les évangiles, on voit que Jésus nous a mis en garde contre le levain. Alors c'est une image, bien sûr, au sens figuré à prendre, le levain d'Hérode, ce levain des pharisiens, ce formalisme religieux, le levain d'Hérode, c'est la mondanité, tout cela. Le Seigneur nous a mis en garde tout cela. Et lorsque l'apôtre Paul nous parle du levain, on a bien compris que ce n'est pas le levain pour faire le pain, mais c'est une image que l'apôtre Paul prend et que nous comprenons bien, parce que ça fait gonfler la pâte. Ça fait gonfler la pâte. Ce vieux levain, il nous faut le faire disparaître. Parce qu'en fin de compte, on pourrait de se targuer d'avoir la parole de Dieu. On pourrait dire, voilà, ben nous, on a tout. On pourrait se rassurer soi-même, s'auto-justifier soi-même en disant, mais on a tous les emblèmes chrétiens autour de nous. Mais si dans nos cœurs, il y a ce levain de l'orgueil, si dans nos cœurs, il y a ce levain de la malice, de la méchanceté, où est l'agneau? Où est l'agneau? Ah, Jésus, merci pour ta patience à notre égard. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de régulièrement enlever tout ce vieux levain afin de célébrer cette Pâque avec un cœur rempli de l'agneau de Dieu qui apporte en nous, par son sang précieux, cette pureté qui nous conduit dans la vérité, qui nous installe dans la vérité. Jésus avait pu dire en son temps, « Mon temps est proche ». C'était le temps de la croix. Mais nous pourrions dire aussi que son temps est proche, celui de son retour. Celui de son retour. Trouvera-t-il la foi? Où sera l'agneau à ce moment-là? Où sera l'agneau? Où sera l'agneau dans le monde? Où sera l'agneau dans les familles? Où sera l'agneau dans l'église? Où sera l'agneau? Où sera l'agneau dans notre propre vie? Ô Seigneur, aide-nous à toujours célébrer cette fête dans nos cœurs. Ce n'est pas un jour particulier, bien sûr, le jour de Pâques qu'il faut célébrer, mais c'est tous les jours. Oui, Pâques, c'est quelque chose de joyeux. Jésus-Christ est ressuscité. Nous voulons vivre dans cette joie de l'esprit ensemble, mais il ne peut y avoir véritablement de joie s'il n'y a pas l'agneau au milieu de nous. Avant que l'esprit vienne dans nos cœurs, il faut que l'agneau y soit. C'est sur Jésus que l'esprit est descendu, et si Jésus est dans nos cœurs, l'esprit va descendre. L'esprit de Dieu va descendre. Alléluia. Il fallait d'abord que Jésus monte sur la croix et qu'il soit ressuscité avant de répandre sur toute chair son Esprit Saint qui est répandu sur l'Église. Que Dieu soit béni. Alors, merci Seigneur, nous voulons que l'agneau soit mis à l'honneur. C'était à l'honneur sur la table du repas pascal, l'agneau. Nous voulons qu'il soit à l'honneur au milieu de nous. Nous voulons partager Christ. Partager Christ. Quand nous prenons le pain de la Sainte Cène, ça vient du même pain, nous le partageons ensemble. Nous partageons ce pain ensemble. Et c'est Christ, c'est le même Seigneur. Nous nous nourrissons de lui. Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, et ça, nous le partageons ensemble. Nous sommes en train, ce matin, de communier, nous sommes en train de reprendre ce repas ensemble parce que nous partageons Christ, non seulement ce matin, mais dans nos vies de tous les jours. Nous partageons Christ dans la communion fraternelle. Nous partageons Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Que son nom soit glorifié. On va, prier le Seigneur. Et puis examiner nos cœurs, puisqu'il nous est dit de nous examiner nous-mêmes. Alors, examinons nos cœurs et posons-nous la question. Où est l'agneau dans ma vie? Où est l'agneau dans mes décisions? Où est l'agneau dans mes projets? Où est l'agneau dans ma famille? Où est l'agneau dans ma façon de vivre? Où est l'agneau dans mes moments de joie comme dans mes moments de peine? Où est l'agneau dans mes conflits? Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est ton esprit qui nous unit et nous sommes à ta table. Tu es notre Pâque. Et Seigneur, nous voulons dans la joie nous approcher de toi, mais en même temps, Seigneur, nous souvenir de ce que tu as fait à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te replacer au centre de notre vie. Ne jamais t'oublier, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu sois glorifié au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, comme tu nous l'as dit, manger ta chair et boire ton sang, Seigneur. Nourrir notre âme de ta personne, afin de te ressembler de plus en plus. Afin de t'aimer de plus en plus. Afin que tu sois vu au travers de nous, Seigneur. Que tu sois vu dans nos vies personnelles, mais que tu sois vu aussi dans notre communion fraternelle, dans notre Église, que tu sois vu. Que ce ne soit plus nous, mais toi qui sois vu. Que ce ne soit plus nous qui vivons, mais toi, Seigneur, en nous. Ô béni sois-tu, Seigneur, parce que nos yeux se portent sur toi, ton Saint-Esprit porte nos regards sur toi. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques, et puis une bonne semaine sous le regard du Seigneur, et puis à très bientôt.